Merci beaucoup Bruno, et nous finissons la journée avec l'exposé de François Héran. Nous applaudissons Bruno et François en même temps, et François qui est professeur ici au collège. Sur Lévi-Strauss, disciple inconstant de Durkheim.
Alors je ne sais pas si je suis un pédagogue conscient, je suis un pédagogue conscient de ses limites. Je ne sais pas si je vais faire l'autoprésentation de la science. Je vais faire de mon mieux pour essayer de ramener le complexe au simple. Et je vais donc revenir un peu à un certain nombre de choses qui ont été amorcées magnifiquement dans certains des exposés précédents. Et donc revenir sur la relation de Lévi-Strauss à Durkheim. Mais je vais insister sur le fait que cette relation est à la fois directe, on l'a évoqué, mais aussi indirecte, notamment via Granet, puisque c'est quelque chose sur quoi j'ai travaillé. Je fais l'hypothèse qu'à peu près personne dans la salle n'a lu ma thèse d'État publiée au PUF dans la collection de Boudon il y a une dizaine d'années maintenant. Et je vais...
Erreur.
Je voulais justement amorcer la pompe de l'admiration. Et donc, je vais revenir un peu au... Voilà, un certain nombre... Alors, le titre, ben, elle est « Disciple inconstant » de Durkheim est tiré d'une citation bien connue. C'est la dédicace d'anthropologiste du recueil de l'article de Lévi-Strauss, « Anthropologie structurale », publié en 1958. 100 ans après la naissance de Durkheim, on permettra qu'un disciple inconstant fasse hommage à la mémoire du fondateur de l'année sociologique, prestigieux atelier où l'ethnologie contemporaine reçut une partie de ses armes et que nous avons laissé au silence et à l'abandon. J'ai courté un peu la phrase. Évidemment, Lévi-Strauss va formidablement reprendre ce programme. Et il termine par une citation grecque qui est en fait tirée des travaux et des jours d'Hésiode et qui dit, ben, au début, les dieux ont commencé par créer une race d'or. Et ça, c'est un des hommages que Lévi-Strauss a de temps en temps, notamment dans des interviews, rendu à cette génération des maîtres. Il a souvent exprimé que Durkheim, Mauss, mais aussi Renan, Bergson étaient des gens qui avaient un style extraordinaire et surtout une maturité absolument prodigieuse. Il constitue incontestablement, je ne vais peut-être pas en parler ici, mais le style de Durkheim a aussi, de même que le style de Bergson, a marqué Lévi-Strauss. Donc il y a un hommage là qui est assez fort, mais évidemment qui se situe dans la lutte avec Gurvitch à l'époque, qui était le grand mandarin de la Sorbonne, qui prétendait accaparer l'héritage durkheimien, et Lévi-Strauss a ferraillé pour faire en sorte que cet héritage ne soit pas monopolisé par la sociologie très abstraite de Gurvitch. Alors, il faut évidemment expliquer les sentiments très ambivalents de Lévi-Strauss à l'égard de Durkheim, mais là je me réfère au récit publié 20 ans après, dans lequel Lévi-Strauss rappelle quel était son état d'esprit quand il arrive tout jeune, il a 27 ans, au Brésil. Les maîtres de l'université attendaient de moi que je contribue à l'enseignement d'une sociologie durkheimienne. J'arrivais en état d'insurrection ouverte contre Durkheim et contre toute tentative d'utiliser la sociologie à des fins métaphysiques. Ce n'était certes pas au moment où je cherchais de toutes mes forces à élargir mon horizon que j'allais aider à relever les vieilles murailles. Toujours ce style, évidemment, étincelant. Donc, l'image qu'avait le jeune Lévi-Strauss du durkheimisme à l'époque était évidemment très négative. Et alors ça, ce sont les retournements que, évidemment, Lévi-Strauss manie très souvent. Aussitôt après, il dit « On m'a bien souvent reproché depuis lors je ne sais quelle inféodation à la pensée anglo-saxonne, quelle sottise. À l'heure actuelle, je suis probablement plus fidèle que tout autre à la traduction durkheimienne. On ne s'y trompe pas à l'étranger. » Voilà un peu ramassé. Donc, et cette ambivalence, eh bien, on la comprend et il y a des articles déjà anciens, et je pense que les études qui ont pu être faites depuis modifient pas radicalement le tableau. À l'époque où le jeune Lévi-Strauss, ou toute cette génération née entre 1900 et 1910, finalement se forme, eh bien, il y a une division vraiment du durkheimisme. Il y a le durkheimisme installé, universitaire, celui de la Sorbonne, incarné par des personnages qui sont des maîtres de morale, finalement, des morales républicaines très mal perçues par les jeunes générations. Et puis, dans quelques lieux isolés, un peu marginaux, mais quand même prestigieux, il y a les véritables chercheurs, les Mauss, les Simian, les Gernet, les Halbax. Ce sont les principaux représentants de cette liste. Et donc, pour cette jeune génération, c'est très intéressant de voir que, comme l'a très bien souligné Elbrom, il y a vraiment un grand parallélisme entre la façon dont les jeunes, Aron, George Friedman, Jean Stutzel, le fondateur de l'IFOP qui va aux États-Unis se former avec Gallup, etc. Enfin, ils vont tous un peu à l'étranger. Hein, ils vont tous parce que il y a pas de poste, tout est barré, les nantis occupent tout, et donc il faut trouver des solutions de contournement. Et beaucoup, évidemment, les cas extrêmes, c'est Beauvoir, Nizan, Sartre, mais Lévi-Strauss s'inscrit totalement dans cette série, d'où le séjour brésilien. Brodel aussi va en faire partie, etc. D'une certaine manière, enfin, même si évidemment les. Et on a un texte qui a été publié, c'est un débat à un institut de sociologie où Granet, représentant des universitaires, des chercheurs face aux universitaires, Granet s'en prend ouvertement à un projet de bougler sur l'enseignement universitaire de la sociologie, où là, c'est vraiment le conservatisme de cette morale durkheimienne qui voudrait investir l'université et l'école. Et Granet dit carrément, mais ça risque d'être pris comme une tentative de justification de mœurs et d'institutions qui, pour beaucoup de jeunes esprits, paraissent démodées. Et il dénonce une sociologie conservatrice et réactionnaire. Donc voilà qui décrit un peu, dans ces années 30, le débat entre au moins deux grandes fractions, fraction du durkheimisme. Évidemment, on peut être pour l'une et contre l'autre, et je crois que l'ambivalence de Lévi-Strauss explique bien, bien expliquée par cette citation. Alors, on connaît, ça a été évoqué tout à l'heure, le fameux texte, il est très court, hein, le petit article que Lévi-Strauss écrit pour revendiquer aussi sa participation au centenaire de Durkheim, dont Gurwitch l'avait exclu. Enfin, c'est ce que... C'est un article assez court qui tient finalement en quelques thèses. Oui, c'est vrai, Durkheim n'a pas fait de terrain, et puis la nouvelle génération que Durkheim a formée aurait dû en faire, mais elle a été décimée par la guerre. Et pourtant, c'est un paradoxe, mais quand on regarde les enquêteurs australiens, j'aime bien cette expression, les grands enquêteurs australiens comme les Berndt, tous les gens qui ne cessaient d'explorer sur un mode ethnographique la vie des aborigènes, eh bien, ils s'inspirent de Durkheim. Durkheim continue de les inspirer, alors que l'homme n'a pas fait de terrain et en était assez distant. Eh bien, explique Lévi-Strauss, cela tient au fait qu'il y a des quantités d'observations complètement étranges, intrigantes, extrêmement dispersées, et qu'il faut des hommes comme Durkheim qui soient capables de les analyser méthodiquement, de les classer, de les situer dans une typologie systématique des croyances et des conduites. Et donc, du coup, Durkheim offre à Lévi-Strauss, au fond, le modèle de ce que sera Lévi-Strauss, c'est-à-dire, effectivement, un anthropologue de cabinet, selon l'expression utilisée par Philippe tout à l'heure, mais capable de réunir toutes ces données de l'ethnographie, de les analyser et d'en faire des synthèses approfondies, ordonnées. Et au fond, ça, c'est une des principales influences de Durkheim, je crois, sur Lévi-Strauss. Alors, il y a toutes sortes de choses que Lévi-Strauss doit à Durkheim, mais là, je vais très rapidement, parce que ça a été évoqué, et là, je l'évoque très mal, mais c'est vrai que le grand texte des quelques formes primitives de classification, avec toutes les réserves qu'a exprimé Philippe, est quand même un texte fondateur pour toute la suite, et surtout que les formes élémentaires de la vie religieuse vont encore insister, vont donner une version quand même beaucoup plus élaborée, finalement, de ce premier article, en insistant sur le fait que, par exemple, tous les éléments... il y a déjà l'idée que A est à B, ce que D est à E, ou ce que C est à D, pardon, et que les liens qui existent entre les formes sociales et les formes symboliques ne sont pas des liens de connexion interne, mais sont des liens analogiques ou homologiques. Ceci, c'est dans les formes élémentaires de la vie religieuse, alors que ce n'est pas vraiment présent dans le premier article. Et pour moi, un des plus beaux livres de Lévi-Strauss, c'est La pensée sauvage. C'est vraiment, pour moi, un immense livre, un des plus novateurs, même si ça se construit à partir, évidemment, dans la continuité d'un très grand nombre d'auteurs. Et je suis frappé de voir que, par exemple, le livre de Bourdieu, Le sens pratique, qui a quelque chose d'analogue dans l'intitulé même, avec La pensée sauvage, c'est un peu le même sujet qui est traité, mais évidemment appliqué à nos sociétés. Quand on lisait bien Le sens pratique, qui est la version remaniée, à peine remaniée, de l'esquisse d'une théorie de la pratique, vous apercevez que ça doit en fait beaucoup à Lévi-Strauss, même s'il y a une critique, enfin à mon avis erronée, d'une version du structuralisme totalement mécanicisée par Bourdieu. Enfin, les dichotomies structurales n'étaient pas du tout aussi mécaniques. Au contraire, dans la pensée sauvage, elles sont extrêmement subtiles, elles se dédoublent, enfin bref. Et autre chose, évidemment, que Lévi-Strauss doit à Durkheim, c'est, et là j'en parlerai davantage, j'en mettant assez longuement dans mon livre là-dessus, c'est la théorie de l'intégration du corps social, où il y a vraiment l'idée, mais j'y reviendrai tout à l'heure, que les petites sociétés comportent en fait des isolats d'ordre qui vous protègent contre une espèce d'anomie générale, notamment l'anomie qui peut être liée à la surpopulation, au développement incontrôlé de l'économie, etc. Ça, c'est très durkheimien. Pour Durkheim, je rappelle que la logique économique livrée à elle-même, c'est la guerre. Contrairement à Weber, pour qui l'économie est une instance de régulation et de coordination, chez Durkheim, l'économie, si on la laisse faire, c'est vraiment la guerre de tous contre tous. C'est un des éléments fondamentaux du durkheimisme qu'on retrouve chez Lévi-Strauss, même si c'est plutôt dans des entretiens ou dans des développements latéraux. Mais enfin, nous verrons. Et puis, bien sûr, il y a un héritage, pas direct de Durkheim, mais indirect via les durkheimiens. Je vais guère revenir sur l'essai sur le don, et je parlerai plutôt de Marcel Granet. Alors, il y a une légende persistante sur la genèse des structures élémentaires de la parenté. Ça aurait été en quelque sorte inspiré par Mauss et Jacobson. C'est une légende que Lévi-Strauss a contribué à diffuser lui-même, qu'il n'a démenti que très très tardivement, j'y reviendrai. En fait, quand on regarde ces deux auteurs, il n'y a rien sur les questions de parenté, quasiment rien, même pas chez Mauss. Il y a une idée générale de la circulation des dons et contre-dons, etc. Mais sur les questions même de parenté, il n'y a rien en réalité qui aurait pu aider Lévi-Strauss à rédiger les structures élémentaires de la parenté et à dresser la typologie des systèmes de parenté. Et puis, il y a l'idée tirée de ces auteurs que dans les systèmes d'opposition, notamment le modèle phonologique, les éléments s'opposent, évidemment, sans avoir de sens intrinsèque. Mais enfin, vous lisez Durkheim, vous lisez les formes élémentaires de la vie religieuse, là, vous avez vraiment toute une série de passages qui vous disent très, très clairement que les systèmes d'opposition opposent des éléments qui n'ont pas de valeur intrinsèque. C'est quelque chose qui est déjà... Mais c'est vrai que Jacobson, comme le dit Lévi-Strauss à un certain moment, a cristallisé en lui un certain nombre de ces idées qui flottaient auparavant. Et le rôle d'une œuvre pour cristalliser des idées est évidemment très important. Il ne faut pas le nier. Alors, je vais insister, moi, sur l'apport de Granet dans « Catégorie matrimoniale et relations de proximité dans la Chine ancienne », qui est un livre étonnant, paru en 1939, et Granet meurt prématurément en 40. C'est une très mauvaise idée. Il ne faut pas publier un livre et mourir aussitôt après, surtout au début d'une guerre. Ça fait quand même plusieurs conditions qui font que votre œuvre risque de plonger dans l'oubli, et ces ruptures, évidemment, provoquent des revivals qui ne sont pas sans reconnaissance. Lévi-Strauss lit ça en 1940, à la veille de son exil. Il est déjà frappé par le décret des lois antisémites de Vichy, et il est à Montpellier. Voilà. Et c'est à ce moment-là qu'il lit ça. Il lira ensuite d'autres auteurs sur les systèmes de... notamment Radcliffe Brown, qui va jouer un rôle très important dans l'élaboration de ces théories. Radcliffe Brown, qui a été également lu par Granet. Alors, comment résumer l'attitude de Lévi-Strauss envers Granet ? Eh bien, je vais utiliser une expression empruntée au vocabulaire de la théorie de la parenté, c'est un retour très différé. Quand vous lisez la première édition des structures élémentaires de la parenté, il y a un formidable éloge de Granet pendant 2-3 pages, il est le premier à élaborer une théorie de l'inceste fondateur de l'échange, de la circulation des épouses, il est le premier à voir le rôle du mariage, de la primauté du mariage par rapport aux filiations, il est, etc. Donc il y a vraiment... Mais aussitôt, s'est accompagné d'une critique absolument ravageuse qui a eu cet effet que ça a complètement dissuadé les gens d'aller lire Granet. Et Granet est tombé dans l'oubli, je le dis à la fin, il a été absent des dictionnaires ou des manuels d'anthropologie, y compris des manuels centrés sur la parenté. Il n'y avait jamais une seule notice sur Granet. La seule exception, c'est Yves Goudineau. Yves Goudineau, c'est le frère de Christian Goudineau, qui a été professeur au Collège de France, spécialiste de l'Asie, de l'anthropologie de l'Asie, qui a consacré une notice tout à fait intéressante à Granet dans les dictionnaires de Bonte et Isard, en expliquant qu'on retrouve... On trouve chez Granet des modèles de parenté qui préfigurent Lévi-Strauss, qui, des modèles comme ça, c'est pas très précisé, ça présente quand même, à mon avis, et j'en ai parlé à Yves Goudineau, il n'est pas d'accord avec mon analyse, mais quand même, ça présente Granet comme une sorte de Jean-Baptiste, de Saint-Jean-Baptiste, le précurseur du Messie. Mais alors qu'il faut lire, évidemment, les choses dans l'ordre chronologique. Il faut d'abord lire Granet et ensuite Lévi-Strauss. Et lire Granet à la lumière de Lévi-Strauss, c'est évidemment un peu problématique. Donc, je vous engagerai à lire les œuvres dans l'ordre. Donc, le problème, et ça, c'est vraiment c'est un épisode assez triste, c'est que en 1967, à l'occasion de la deuxième édition, le chapitre sur Granet est un de ceux qui est le plus modifié dans la seconde édition. Il y a des notes qui sont rajoutées, et il y en a une qui est terrible, qui consiste à dire que, finalement, accuser Granet d'avoir fait un emprunt clandestin à l'école néerlandaise, l'école de Leyde, ou Leiden, si vous voulez. Une thèse a été publiée en 1935 en néerlandais. Granet, à l'estime de Lévi-Strauss, connaissait cette thèse, qui est une thèse qui développe la théorie du connubium circulant. Le connubium circulant, c'est A cède une femme à B, qui cède une sœur, enfin à C, qui en cède à D, etc. Et puis ça circule et ça revient. La théorie du connubium circulant est développée par Leyde, et Lévi-Strauss dit « moi, je l'ignorais, cette thèse », alors que Granet, lui, certainement l'a connue, mais ne la cite pas. C'est quand même une accusation assez forte, puisque, évidemment, ça préserve l'originalité de Lévi-Strauss et ça détruit l'originalité de Granet. Et puis, en 1988, dans la grande interview donnée à Didier Ribon, de près et de loin, il y a un passage étonnant où Lévi-Strauss, 40 ans après, finalement, reconnaît enfin sa dette envers Granet. Alors voilà le texte. Ribon, en bon intellectuel parisien, étant au courant un petit peu, dit « bon, ben maintenant, on va parler des structures élémentaires de la parenté, alors ça, d'où est-ce que ça vous vient ? De Mauss et Jacobson, n'est-ce pas ?» Et là, Lévi-Strauss, aux surprises, dit « non, non, ne négligez pas Granet. C'est son livre, Catégorie matrimoniale, relation de proximité dans la Chine ancienne, qui m'a éveillé au problème de parenté. Je l'ai lu quand j'étais au lycée de Montpellier, pendant les quelques semaines avant ma révocation, et cette lecture m'a passionné. Granet s'attaquait à des systèmes très compliqués, il s'employait à les démonter, comme on démonte un mécanisme. Pour comprendre à la fois de quoi ils étaient faits et comment ils fonctionnaient, je découvrais une réflexion objective appliquée aux faits sociaux. » Et vous voyez que cette présentation de l'apport de Granet, elle est très durkheimienne. Hein, on a vraiment là une approche tout à fait durkheimienne de ce que l'analyse sociologique peut apporter à l'étude des faits sociaux. Donc, c'est un texte étonnant, mais très, très tardif. En 1988, il y avait encore une allusion en 1976 à un moment, mais pour redire ce que Lévi-Strauss a beaucoup dit, mais oui, il s'était attaqué, Granet, à des choses, des problèmes assez très compliqués. Il a offert des solutions encore plus compliquées que le problème à résoudre. C'était incompréhensible, etc. Donc, ça dissuadait de lire Granet, alors que là, voilà. Moi-même, je n'avais pas lu cette interview quand j'avais appliqué mon programme de lecture que je voulais aussi exhaustif que possible de toutes les recherches sur la parenté. Puis quand je suis arrivé à Granet, il n'y avait pas Internet à l'époque. Aujourd'hui, catégorie matrimoniale est sur Internet, aucun problème. Enfin, à l'époque, il fallait aller dans les bibliothèques et le chercher. Il n'y avait pas tellement d'exemplaires. Et j'ai eu le choc de ma vie. Je me suis dit, mais c'est extraordinaire. Toute la typologie des structures élémentaires de la parenté de Lévi-Strauss est là. Et j'ose dire actuellement, et je l'ai écrit, que 95% de la typologie des structures élémentaires de la parenté est dans Granet. Voilà. Alors, on va essayer de voir un petit peu quand même le détail, parce que... Et vous voyez, toujours, chaque fois, même en 88, quand il évoque que le fait que c'est Granet qui l'a éveillé au problème de parenté, que c'était formidable de découvrir une réflexion objective sur... Aussitôt, il y a une restriction très forte. En même temps, je méritais C'est à la fois l'enthousiasme et l'exaspération. Je m'irritais de ce que pour rendre compte de systèmes très complexes, Granet se laissa entraîner à imaginer des solutions qui étaient plus encore, ben, c'est ce que je vous disais. À mes yeux, derrière le complexe, il doit y avoir du simple, mais toute ma réflexion sur les systèmes de parenté vient de là. Alors, essayons d'entrer un petit peu dans les structures élémentaires de la parenté, et là, ce n'est pas facile, parce que c'est un livre extraordinairement touffu. Avec la présentation des différents systèmes, je n'ai pas présenté en 5 ou 6 pages synthétiques. Le premier système est à la page 130, le deuxième à la page 340, le troisième à la page 360, etc. Enfin, c'est extraordinairement touffu. Et pour moi, un livre qui a énormément compté, c'est l'introduction à 2 théories d'anthropologie sociale de Louis Dumont. Ben, c'est l'époque où j'étais formé à la FRA, la formation à la recherche anthropologique à l'UHESS. Et on nous avait dit qu'il fallait absolument lire ce livre, et je ne l'ai jamais regretté. C'est un livre qui m'a beaucoup marqué. Alors j'ai essayé ensuite, moi-même, de faire une présentation des structures élémentaires de la parenté, en toute fausse modestie, n'est-ce pas ? Je pense que c'est la présentation la plus claire qu'on puisse faire de la théorie lévi-straussienne des structures élémentaires de la parenté. Et je me suis inspiré pour ça d'une représentation graphique. J'ai pris Lévi-Strauss au mot. Il ne faut pas poser d'abord des termes et ensuite les relier. Il faut que les personnes elles-mêmes soient des liens. Une personne, dans un système généalogique, est un lien entre 2 générations. C'est un genre ou un sexe masculin ou féminin qui se déplace ou qui reste immobile, qui épouse. Donc ce sont des déplacements et non pas des points qui figurent. Et j'impose une contrainte d'orientation à ces segments. Donc voici un homme. Je prends une première convention. On peut permuter toutes les conventions et faire en sorte qu'on dise que ce serait plutôt une femme. Mais là, pour l'instant, je vais démarrer par quelque chose de très simple. Voici un homme. Et voici, par exemple, un homme et son fils. Donc, il y a une série des générations. Voici un homme et sa sœur. Ce sont 2 segments qui divergent. Et déjà, là, par construction, vous faites en sorte qu'il n'y ait que 2 orientations possibles. Et donc, la prohibition de l'inceste est là. Elle est par construction dans le système. C'est vraiment le système de Granet et Lévi-Strauss. Je mets un trait d'union. Vous ne pouvez construire ces relations de parenté qu'en posant, dès le départ, qu'il y a une prohibition de l'inceste, que les sœurs doivent aller ailleurs. Et du coup, la réciproque, c'est qu'un homme ne peut épouser une femme que si elle vient d'ailleurs. Mais vous pouvez évidemment permuter les positions des sexes, ça donnera la même chose. Et voici par exemple A qui donne une sœur à B. B prend donc comme épouse la sœur de A. Et quand il y a un échange de sœurs, ce qui est très important dans ces théories, ben, vous avez un chassé-croisé, c'est l'expression utilisée par Granet, ou le mariage bilatéral, comme dira Lévi-Strauss. Donc, imaginons, et là je vais vous présenter en 3 minutes, les structures élémentaires de la parenté. Et vous ne trouverez ça nulle part ailleurs. Imaginez 4 patrilinéaires sur 4 générations, ABCD, et puis je reproduis, ça c'est très important, je reproduis à droite le premier segment, hein, c'est comme une carte géographique, ça simplifie énormément, ça régularise la représentation. Et imaginez qu'il y ait une politique d'alliance toute bête, les A donnent leur sœur au B, qui donnent leur sœur au D, etc. Petite parenthèse, ces segments ont été des faisceaux de segments parallèles, des faisceaux de sœurs, des faisceaux de frères, de cousins germains. Enfin, je ne vais pas entrer dans le détail. Et imaginez qu'à la génération suivante, on persiste. Et l'alliance est une alliance à sens unique. Et on continue, etc., etc. Alors, qu'est-ce que ça donne ? Eh bien, au miracle, on épouse une cousine croisée. Une cousine croisée, ça veut dire qu'à la génération supérieure, il y a un frère et une sœur. On n'est pas 2 enfants de 2 frères ou 2 enfants de 2 sœurs. On est enfant d'un frère et d'une sœur. Donc, on épouse une cousine croisée. Car vous voyez, égaux est ici, égaux à une mère, le frère de cette mère, c'est l'oncle maternel, dont on épouse la fille, et dans l'écriture anglaise, qui elle suit l'ordre des segments, mother's brother's daughter, on épouse la fille du frère de la mère, et W, wife, donc l'épouse égale MBD, c'est l'équation, c'est ce qu'on appelle une équivalence. Alors, la question, c'est que ceci s'observe dans des nomenclatures de parenté, où il se trouve que très souvent, l'oncle maternel, le beau-père, est appelé oncle maternel. La question de savoir, est-ce que c'est un vrai mariage, est-ce que c'est la suite d'un mariage, ou est-ce que c'est simplement une équivalence cognitive, c'est l'arborescence de la parenté, les liens entre consanguins alliés qui sont repliés, en quelque sorte, sur deux lignes. Ça, c'est la grande question à laquelle Lévi-Strauss ne répond pas, mais d'autres auteurs vont y répondre, j'y reviendrai. Donc voilà comment une formule générale, globale, comme dit Louis Dumont, entraîne au niveau local un certain type de mariage. Ça, Granet le comprend parfaitement. Il l'énonce avec, dans une clarté absolument incroyable. Et Granet, contrairement à ce que fait Lévi-Strauss, prend toujours soin d'énoncer toutes ces règles matrimoniales et leur équivalent en type de mariage du double point de vue égo-masculin et égo-féminin. Le mariage matrilatéral pour un égo-masculin est un mariage patrilatéral pour un égo-féminin. Il prend toujours soin d'énoncer les règles des deux façons, ce que Lévi-Strauss ne fait pas, car Granet était féministe. C'est un détail assez intéressant. Alors, ici, on a une autre formule d'alliance. C'est toujours les mêmes lignées, c'est toujours l'idée qu'il y a une circulation à sens unique, mais à la génération suivante, voilà, il y a une alternance, et là, aux surprises, la cousine qu'on épouse est toujours une cousine croisée, il y a toujours une opposition de sexe à la génération supérieure, mais cette fois, c'est une cousine croisée pour un égo masculin qui est patrilatérale, c'est la fille de la sœur du père. Et puis, on peut continuer, on peut faire un échange de sœurs répété, et à ce moment-là, la cousine est à la fois patrilatérale et matrilatérale, elle est bilatérale, et puis, enfin, dernière formule, échange de sœurs alternées, on échange deux à deux à une génération, et puis on le fait à gauche, et puis ensuite à droite, et puis à gauche, et l'échange de sœurs alternées produit ce schéma magnifique, et la cousine qu'on épouse, une cousine quadrilatérale, en quelque sorte, elle est symétrique, et on peut remonter sa généalogie de plusieurs façons dans cet arbre, je ne vais pas insister là-dessus. Alors, dans les représentations classiques que j'ai à gauche, et c'est celle qu'utilise Louis Dumont, vous avez les quantités de parasites, hein, des chevauchements, etc. Puis vous avez les termes d'abord, les relations ensuite. J'ai repris la version la plus simple des schémas. Il y en a de beaucoup plus compliqués. Robin Fox, par exemple, qui est un autre pédagogue qui était très utilisé dans les années 70, a des schémas beaucoup plus complexes. Là, vous avez l'échange généralisé ou la science. Parce que ce que Lévi-Strauss, l'alliance à sens unique, c'est ce que Lévi-Strauss a appelé l'échange généralisé, ou échange asymétrique chez Granet, que moi j'appelle simplement le transfert exclusif. C'est toujours du même côté qu'on transfère. Et puis là, vous avez le mariage patrilatéral. C'est la formule de Lévi-Strauss, mais le mariage n'est patrilatéral que pour égo masculin. Du côté d'égo féminin, il est en fait matrilatéral. Bon. Et puis ça, c'est le mariage à Randall. Là, vous voyez que ce circuit électrique quand même très complexe ne donne pas du tout la structure globale, alors qu'elle est lumineuse quand on regarde, quand on utilise ce que j'ai appelé des diagrammes de structure, dont les propriétés sont exactement homologues à la théorie. Il n'y a rien d'adventice qui s'ajoute, il n'y a pas de parasite. On a la vraie complexité des choses sans que s'y ajoute une complexité adventice créée par les défaillances du système de représentation. Voilà. Alors, c'est dans. Et regardons maintenant ce qu'a fait Granet dans ce texte qui a été publié en 1939, et je vais y revenir. Alors, il présente. Lévi-Strauss dit, mais c'est extrêmement compliqué tout ce que fait Granet, on n'y comprend rien, il ne maîtrise pas la formule de l'alliance circulaire, etc. Bon, ben là, vous avez un schéma où, certes, Granet utilise des prénoms, des déviations, là, Julien, Lucianus, Jules, Lucius, Julien, bon, c'est un peu bizarre d'utiliser, mais enfin, Lévi-Strauss a fait la même chose avec les Dupont de Lille, les Durand de Caen, enfin, je ne sais pas si vous vous souvenez de ces passages, donc c'était un procédé à l'époque qu'on voulait didactique, et là, on voit bien la circulation, génération après génération, sous la forme d'un schéma concentrique. Et puis, il fait la même chose pour l'alliance alternée, ou mariage patrilatéral, où les flèches s'inversent d'une génération à l'autre quand on part du sang. Donc, il y a une vision, vous voyez, chez Granet, qui est tout à fait claire. Et alors là, il fait quelque chose d'épouvantable. Et Alvax, qui était l'éditeur de ce cahier de Granet, s'arrache les cheveux en disant... Granet nous a livré un manuscrit absolument épouvantable, ça coûte les yeux de la tête, c'est la quadrichromie, à l'époque c'était très cher, et il peste dans une lettre à je ne sais plus qui, contre les exigences folles de Granet, qui représente, effectivement c'est compliqué, parce que le 3D, c'est pas très bon du point de vue représentation. Il vaut mieux étaler ça sur un plan, avec la reproduction à droite de la première lignée qui est à gauche, et à ce moment-là on comprend la logique. Le 3D, ça cache... un plan arrière derrière un premier plan, les lignes s'embrouillent, enfin bon, ça c'est un problème de sémiographie. Et donc, il fait ça avec l'alliance à sens unique, il fait ça avec l'échange alterné, c'est pas très clair, et c'est un peu en prétextant ces diagrammes que Lévi-Strauss dit, mais finalement, Granet, c'est beaucoup trop compliqué, il complique la solution. Mais en fait, il suffit de transcrire en diagramme de structure exactement la même chose, les mêmes liaisons, sans couleur, juste en ordonnant les générations et les lignées, et vous avez ceci qui est d'une simplicité biblique. Et vous avez cela qui est tout aussi simple, simplement on alterne le sens de circulation des conjoints d'une génération à l'autre. Donc, alors, parlons un petit peu de Granet quand même, parce qu'on ne connaît pas tous Granet. C'est un élève de Durkheim, c'est un élève aussi de Chavannes, qui est le grand sinologue de l'époque. Il passe plusieurs années à Pékin et on a des témoignages, c'est assez drôle, il emmène toute sa collection de l'année sociologique, tellement il est accro à sa revue préférée. Et les témoignages d'étudiants chinois qui ont été recueillis à sa mort disent, mais il nous faisait lire Durkheim, Mauss, Hertz, etc., et tous les grands classiques, les variations saisonnières des Esquimaux, la main gauche, la main droite, etc. Enfin, tout ceci, les étudiants chinois l'ont lu, alors qu'ils étaient en pleine révolution. Je vous signale qu'on est en pleine révolution chinoise. Bon, les œuvres de Granet sont connues. Il y a la thèse secondaire. Déjà, la thèse secondaire s'intéresse à la parenté, la polygynie sorora, l'aile sorora, mais je ne vais pas en parler. Et les autres sont devenus de grands classiques, maintes fois réédités. Donc, il est marqué comme sinologue. Et ça, Lévi-Strauss va beaucoup insister là-dessus, mais il va essayer, en quelque sorte, de localiser Granet. Mais Granet a sorti une formule qui a été citée par un de ses élèves. Un jour, dans un cours, il s'est écrit « La Chine, je m'en fous. Ce qui m'intéresse, c'est l'homme. » Et donc, il y a une volonté. Voilà. Alors, Granet était très lié à Mauss, directeur d'études de l'EPHE. Il fait la guerre, il a la médaille militaire, il est très décoré. C'est une vraie guerre de 14, sur laquelle il n'y a pas laissé de témoignage. Il fonde l'Institut des hautes études chinoises à l'Université de Paris. Il est élu dans des circonstances assez dramatiques, président de la section des sciences religieuses de l'EPHE, et rencontre le ministre, et le soir même, cette rencontre ayant été orageuse, semble-t-il, il s'effondre et il meurt subitement à l'âge de 56 ans. Donc voilà le destin de Granet, donc le 25 novembre 40. Voilà la citation intéressante, qui universalise quand même le travail de Granet. Bon. Je rappelle qu'il a été aussi un grand initiateur de Georges Dumézil. Dumézil a laissé plusieurs témoignages sur l'impression que Granet lui a faite. Voilà, il est difficile de comprendre comment la manipulation textile chinoise m'a servi sur un domaine aussi différent que celui des Indo-Européens. Il avait suivi son séminaire et c'est peu de temps après que Dumézil élabore la théorie des trois fonctions. Et puis là, le témoignage le plus intéressant, pendant 3 ans, j'ai suivi ses séminaires, j'ai vu l'homme à l'œuvre. Il était tout le contraire de Mauss. Mauss était une sorte de visionnaire, de prophète, parfois fumeux, parfois fulgurant dans son expression. Granet, lui, avait un esprit à la fois intuitif et discipliné. Ce qu'il disait était précis, organisé, démonstratif. Tout venait à sa place. Et ça, c'est cet aspect-là, qui est plutôt durkheimien que maussien, évidemment, que Dumézil avait apprécié, mais que Lévi-Strauss aussi avait finalement apprécié chez Granet, même s'il y avait toutes sortes de fantaisies graphiques et sémiographiques, si j'ose dire, dans l'œuvre de Granet. Alors, Granet, dans les catégories, il ne dit pas structure, il dit système, régime, organisation. Souvent, c'est solution. Il y a une solution australienne, il y a une solution chinoise. Un problème qui est la circulation, les distributions égales des épouses ou des époux dans le système social. Et pour lui, c'est une convention. Est-ce qu'on donne à droite, à gauche? Est-ce qu'on donne toujours dans le même côté? Est-ce qu'on alterne? Ce sont autant de conventions, autant, on dirait aujourd'hui, de permutations, un groupe de transformations. C'est comme ça que assez vite des mathématiciens l'ont formalisé. Et en même temps, il hésite sur un problème qu'on retrouvera chez Lévi-Strauss, qui est un problème lancinant de la théorie de la parenté. Est-ce que c'est à partir des terminologies de parenté qu'on voit ces récurrences entre ces analogies de terminologiques entre les consanguins et les alliés? Est-ce que c'est un problème simplement cognitif de classement des parents, ou est-ce que c'est vraiment le résultat de pratiques matrimoniales qui existent ou qui ont eu existé en quelque sorte? Pour Lévi-Strauss, ça a toujours été finalement le reflet de pratiques matrimoniales. C'est quand même Lévi-Strauss va rester accro à cette idée, comme qui était aussi celle de Durkheim, mais que d'autres auteurs ne le partageront pas. Alors, voilà. Et Granet, de temps en temps, dit « Oui, mais c'est peut-être des conventions qui sont démotivées, qui n'ont pas lien avec des pratiques matrimoniales, qui sont peut-être purement verbales. » Ce qui est une idée tout à fait étonnante pour l'époque. Donc, je passe rapidement sur le fait qu'il y a finalement une typologie du système de parenté dans la catégorie qui est celle, en gros, de Lévi-Strauss, avec des noms qui sont empruntés à des formules australiennes ou à des nomenclatures de parenté chinoises, peu importe. Il va même, je termine là-dessus, évoquer un système d'alliance qui boucle sur 4 générations et pas sur 2 générations. C'est exactement le système hyper-arranda que Françoise Héritier développera bien plus tard. Ça, c'est totalement formalisé chez Granet. Donc, c'est très rigoureux, c'est très systématique, alors que Lévi-Strauss présente Granet comme étant quelqu'un qui, de temps en temps, par moment, a des visions un peu fulgurantes, a des intuitions géniales, etc., alors qu'en fait, non, Granet, c'est très systématique. C'est une combinatoire qui est développée de façon absolument systématique. Voilà, quelques-unes de ces découvertes, eh bien, c'est qu'il y a 4 systèmes d'alliances simples, avec chacun impliquant un mariage entre cousins croisés. On peut penser qu'on démarre par le mariage entre cousins et que la répétition de ces mariages produise des lignées. Il fait également le parcours en sens inverse. Et une immense littérature qui va traiter cette question, mais beaucoup plus tard. Et là, il y a une découverte extraordinaire à laquelle Lévi-Strauss rend une espèce de semi-hommage, c'est que l'inceste n'est pas répréhensible pour des raisons morales ou biologiques. C'est une faute de jeu dans la distribution des sœurs. Donc, une des premières formulations, comme quoi l'inceste n'est pas un problème moral, c'est en fait le principe de construction. Il faut que les sœurs aillent à l'extérieur. Et ce que ne fait pas Lévi-Strauss, Granet le fait, c'est-à-dire que c'est indifférent. Ça peut marcher aussi bien en filiation patrilinéaire qu'en filiation matrilinéaire. Vous permutez les termes, c'est toujours le même système. Il n'y a pas de primauté de la filiation sur l'alliance. Il n'y a pas de privilège des hommes sur les femmes. Ça existe, ça va venir, mais ça, c'est au cours de l'histoire. Il va y avoir une domination masculine, une domination des aînés sur les cadets, etc. C'est des hommes sur les femmes de façon générale. Voilà. Alors, ce qui est intéressant, c'est de voir que, avec cette combinatoire très précise, arrivent maintenant des jugements de valeur. Et il y a les figures de la parenté, et puis arrivent en quelque sorte ce que j'appelais les légendes. Et ces légendes, elles n'ont pas de lien intrinsèque avec les figures, mais Granet va distribuer des jugements de valeur sur chaque formule de parenté. Et Lévi-Strauss va reprendre très exactement les mêmes jugements de valeur, avec les mêmes métaphores, les mêmes systèmes. Et donc, le mariage patrilatéral, celui qui fait osciller les filles entre des lignées, ben, ce n'est pas intégrateur, parce qu'il y a un retour quasiment immédiat. Donc, le système est rejeté. La cousine matrilatérale, alors ça, c'est formidable. C'est le meilleur des systèmes pour Lévi-Strauss. C'est l'échange généralisé. A donne à B, qui donne à C, qui donne à D, etc., avec un espoir de retour qui n'est pas certain. Enfin, ça finit par revenir. Et aventure, jeu, prise de risque, toutes ces métaphores sont utilisées par Granet. Et Lévi-Strauss reprend les mêmes. Par exemple, Lévi-Strauss condamne le mariage patrilatéral en disant que c'est gagne petit. Et vous avez, donc, j'analyse tout ça dans mes textes. Les cousines bilatérales, ben, c'est un chassé-croisé binaire. Alors, Lévi-Strauss dit que ça peut être la réduction à juste 2 lignées du système d'échange à sens unique, mais finalement, c'est quand même typique des systèmes australiens, notamment du système Carriera, où tout se passe, ou des systèmes dualistes en Amérique amazonienne, chez les Amérindiens. Et la cousine quadrilatérale, c'est le système Aranda, du nom de la tribu australienne, où ça a été identifié, et notamment exposé par Radcliffe Brown. Donc, Granet utilise beaucoup l'ethnographie de Radcliffe Brown en Australie. Donc, là encore, une dette de Lévi-Strauss envers Granet qui est très, très forte, hein, qui n'est jamais rappelée dans le cours. Il y a 2 chapitres consacrés à Granet, mais ensuite, quand se développe toute la typologie, il n'y a plus de référence à Granet. Voilà, alors j'arrive à cet épisode un peu pénible. 2e édition des structures, une note ajoutée, ou un texte ajouté. En fait, Granet a réinventé, sous couleur d'un prétendu système chinois transitionnel qui n'a probablement jamais existé en Chine. Alors il y a tout le problème de la localisation, j'entre pas dans le détail, c'est assez compliqué. D'où la défiance de ses collègues. En fait, les sinologues ont admiré Granet, hein, contrairement à ce qu'on dit. Maurice Friedman, notamment, qui était un des plus grands sinologues de l'époque, a publié Granet et a fait un éloge de Granet. Mais Lévi-Strauss a rencontré des sinologues qui trouvent que Granet n'est pas suffisamment solide. Bon, il a réinventé le système Mergin. Le système Mergin, c'est un système australien que Lévi-Strauss interprète dans le sens de l'alliance généralisée. C'est maintenant très, très remis en cause par les vrais spécialistes de l'Australie. Donc, tout est problématique dans cette affaire. Arrêter la roue des combinatoires sur un lieu précis, sur un système patrilatéral ou matrilatéral, là, tous ces arrêts comme ça ont tous été remis en question. Et donc, il a inventé un système, il l'a mal localisé, ce qui peut lui valoir l'admiration des sociologues. Ça, c'est les perfidies dont les intellectuels, dont les chercheurs sont capables. Il ne me semble pas douteux aujourd'hui que Granet, sans le citer, a été influencé par Van Vouden, mais Granet a tant d'autres titres d'admiration des sociologues que la formule ci-dessus, c'est-à-dire ce qui peut lui valoir l'admiration, n'a nul besoin d'être modifié. J'ignorais moi-même l'ouvrage de Franciscus Van Vouden, Sociale Structure Typen der Rote Ost, à l'époque où j'écrivais ce livre, et ce n'est pas la moindre lacune d'un travail qui en contient beaucoup d'autres. Donc, il défend son originalité, il l'a construit, puis en même temps, c'est présenté sous le registre de la fausse modestie. Enfin, c'est un texte qui est assez compliqué du point de vue rhétorique, qui est redoutable. Alors, regardons un petit peu ces textes. Il se trouve que Needham a traduit en anglais la thèse de Van Vouden, et en fait, il y a eu, simultanément, dans la même école doctorale, à Leyde, dans un centre dirigé par Jocelyn de Jonc, il y a eu, en 1935, deux thèses, l'une publiée en néerlandais, l'autre publiée en anglais, et aux surprises, eh bien, ces deux thèses présentent tous les deux le connubium circulant, le fait que A se marie avec B, se marie avec C, etc. Bon, je n'entre pas dans le détail pour savoir si c'était vraiment un connubium circulant. C'est présenté comme une donnée ethnographique, c'est étudié par ces deux thèses, avec les mêmes graphiques, les mêmes schémas. Et Lévi-Strauss connaissait parfaitement cette thèse, car il commente assez longuement la thèse de Gerrit Jan Held, qui est, donc, elle avait été publiée en anglais. Donc, en fait, Lévi-Strauss connaissait l'école de Leyde, la commente, mais dans cette note de la deuxième édition, semble oublier qu'en réalité, il la connaissait. Alors que j'ai pu démontrer que Granet n'avait absolument aucune connaissance de ces deux thèses. Bon, pourquoi fait-il ça ? Il fait ça en partie pour réagir à Leach. Il faut voir que la polémique avec Leach est très, très puissante et importante. Tu t'en souviens, Philippe. Et Leach était un redoutable, un polémiste et un bretteur redoutable, professeur à Cambridge, hein, c'est bien ça, et qui, lui, avait fait beaucoup de terrain en Birmanie, connaissait parfaitement la situation. Et il est le premier à faire un commentaire en anglais, bientôt suivi par Jocelyn de Jonc, à faire un commentaire en anglais et assez critique des structures mentaires de la parenté. Et là, il reproche à Lévi-Strauss d'avoir surestimé l'originalité de Granet. C'est assez paradoxal d'en avoir fait trop dans l'éloge de... Voilà. Mais en fait, j'ai montré que Leach n'a jamais lu Granet et qu'il le cite de seconde main. Il ne connaissait de Granet que ce que Lévi-Strauss en dit dans les structures mentales de la parenté. Et ça, c'est quelque chose que je vais revoir plus souvent. Et Adam Cooper, qui est un chercheur sud-africain, à qui on doit une belle étude historique sur l'histoire de la parenté, eh bien, n'a lu que Leach et donc cite Granet et commente Granet de troisième main. Et ça, c'est quelque chose qu'on revoit quand même de temps en temps dans la discipline. Voilà. Alors, Leach a réédité son essai en 1961. Il trouve vraisemblable que les idées de Granet ne prenaient pas de Radcliffe Brown. Il s'interroge un moment, mais de Van Vouden. Et c'est pour réagir à ça que Lévi-Strauss dit « Ah ben oui, Granet a certainement piqué ses idées à Van Vouden. » Bon. Alors... Il y a aussi une philosophie sociale profondément durkheimienne dans le système de Lévi-Strauss. On ne le voit pas très bien, parce qu'après la guerre, évidemment, les étiquettes se renouvellent. Le structuralisme, est-ce que c'est encore du durkheimisme ? Plus personne ne revendique Durkheim, c'est complètement obsolète. Si, aux États-Unis, Durkheim est une grande lecture dans les années 50. Mindras, par exemple, le sociologue bien connu, a fait une mission aux États-Unis. Il est stupéfait. Il découvre que Durkheim est un très grand auteur, utilisé dans tous les readings aux États-Unis, dans les années 45-50, grâce à Parsons, qui, dans les années 30, a réhabilité Durkheim. Et là, il l'a installé dans son système, on y a fait allusion tout à l'heure. Mais ça, on l'ignore en France. Et donc, tous les Français qui arrivent aux États-Unis à ces blagues sont stupéfaits de voir que Durkheim est un grand auteur pour les Américains, alors qu'il ne l'était plus pour les Français. Bon. Et puis, il y a tout le fait que la théorie de la parenté va être retranscrite dans la théorie, dans le langage de la linguistique, la communication, la linguistique, c'est des termes très importants, et tout ça va dissimuler un peu les origines durkheimiennes de tout ça. Il y a, et ça, c'est très intéressant de lire systématiquement toutes les interviews qu'a données Lévi-Strauss, mais aussi des allusions qu'il a insérées régulièrement dans ses ouvrages. Il y a une obsession démographique de Lévi-Strauss, la surpopulation, ça l'a énormément inquiété, les grandes villes anonymes, tous ces espaces où on est perdu, etc. Et donc pour lui, l'anthropologie, c'est la possibilité de retrouver, d'identifier quelques îlots d'ordre dans le chaos. Et ça, c'est la grande idée aussi de l'anomie durkheimienne. Il faut isoler un certain nombre de petites choses qui sont bien ordonnées. C'est dans un contexte général qui est finalement celui de l'anomie avec tous ses dangers. Et du coup, l'échange généralisé, promu par Lévi-Strauss, mais aussi par Granet, c'est une espèce de formule intermédiaire entre une formule très locale, harmonieuse, on est entre soi, et quand même une prise de risque vers l'extérieur, mais avec l'espoir qu'on va retrouver sa mise. Voilà. Alors aujourd'hui, évidemment, tout ce que Lévi-Strauss a dit sur la surpopulation, l'anonymat, etc., c'est réinterprété dans le langage de l'écologie. Et à la mort de Lévi-Strauss, il y avait beaucoup d'éloges sur Lévi-Strauss étaient rédigés dans ce registre. Bon, l'arbre des parentés, finalement, je crois que j'ai... Toutes les couleurs n'ont pas été restituées. Finalement, il y a une relation très directe, une influence très directe des formes primitives de classification sur Granet, qui influence fortement Lévi-Strauss. Bien sûr, il y a une petite influence de Durkheim et Mauss, la structure inventaire de la parenté, mais aussi une critique. L'école de Leyde, eh bien, Lévi-Strauss la connaissait via Held, ne la connaissait pas vers Van Vouden. Voilà comment on peut rétablir l'arbre des filiations par rapport à ce qui a été écrit, par rapport à ce que Lévi-Strauss lui-même a écrit. Voilà. Il y a après tout le problème, et ça j'arrive à la fin, rassurez-vous, est-ce que toutes ces équivalences du vocabulaire de parenté, cette façon qu'on a de replier toute l'arborescence de la parenté sur deux, trois ou quatre piliers qui caractérisent finalement parfois trois, qui caractérisent les systèmes de parenté, est-ce que c'est du cognitif ou est-ce que c'est de la pratique sociale, est-ce que c'est du matrimonial? Eh bien, le débat a été lancé par Kreuber. C'est un débat tout à fait extraordinaire. Dès 1909, Kreuber s'en prend à Rivers, qui lui faisait de l'histoire conjecturale, qui lui réinterprétait toutes les assimilations en différence de parenté en termes de mariage. Si, par exemple, le même terme se retrouvait à deux ou trois générations de distance, Rivers concluait qu'autrefois, en tout cas, en Mélanésie, eh bien, on épousait des gens, des filles qui appartenaient à deux ou trois générations en dessous. Il imaginait des formidables mariages entre générations. Lévi-Strauss s'est jamais départi de cette idée. Et Kreuber dit non, les termes de parenté reflètent la psychologie, on dirait aujourd'hui qu'ils ont une valeur cognitive, reflètent la psychologie, non la sociologie. Ils sont fondamentalement déterminés par la langue. Et là, il y a quelque chose d'important à dire, c'est que Lévi-Strauss n'est pas linguiste. La linguistique, il s'en écarte. Il sent trop que c'est un domaine de spécialistes sur lequel il serait dangereux de s'aventurer. Il n'essaie pas de s'aventurer, c'est un domaine qu'il ne maîtrise pas, en quoi il a sans doute raison. Mais du coup, il est très indifférent aux problèmes de linguistique. Or, la linguistique de la terminologie de la parenté offre souvent des systèmes d'inclusion via des diminutifs. On sait par exemple en Australie que le système des pronoms, le nous inclusif, le nous exclusif, les langages tabous qui consistent à parler des autres de façon négative pour ne pas en parler de façon positive, réciproquement, tout ceci détermine des classifications qui ne sont pas souvent des sections, mais qui sont simplement des groupes manipulés par ego, au niveau d'ego, de la sphère d'ego. Voilà. Et il y a deux grands auteurs très importants dans l'histoire de la théorie de la parenté, c'est Floyd Lounsbery et Harold Scheffler, qui donc représentent l'école ethnolinguistique de Yale, qui sont des hommes de terrain, de très grands linguistes, et qui ont démontré, qui ont été les premiers à démontrer, que finalement on avait des équivalences de vocabulaire dans toute une série de sociétés sans du tout avoir les règles de mariage correspondantes. Donc il y a un découplage entre la nomenclature et les pratiques matrimoniales Et voilà. En ça, Lévi-Strauss est un corté durkheimien parce que lui, il reste adhérent de la vieille idée que ce sont quand même les structures sociales qui déterminent sont les pratiques sociales qui déterminent le vocabulaire de la parenté. Ça n'est pas la même chose que Philippe évoquait tout à l'heure, l'idée assez simpliste chez Durkheim que s'il y a un seul segment dans la société, la horde primitive, alors il y a une seule catégorie. Si on a une société duale, alors les catégories sont duales, si elles sont, etc. Ça, Mauss, en fréquentant Radcliffe Brown, s'est rendu compte que c'était complètement illusoire. Donc, il ne s'agit pas de cette version simpliste du sociologisme durkheimien, mais d'une version plus élaborée. Et alors, c'est ma dernière diapositive, tout a une fin. Et évidemment, pourquoi cette continuité avec Durkheim n'est-elle pas perçue? Pourquoi est-elle était finalement passée sous silence si longuement? Il y a quand même des circonstances atténuantes, ou des facteurs, ou des, comme vous voulez. Il y a le choc de 1940, la mort prématurée de Granet, la guerre, les lois antisémites, l'exil. Tout ceci, ça fait quand même une somme de ruptures extraordinaires. Il y a la rivalité avec Leach dans les années 60, j'en ai parlé. L'alliance avec Needham, très ambivalente, mais enfin, qui aboutit à survaloriser l'école de Leyd. Et puis, le fait qu'après, on n'a pas osé contredire le maître. Il y a quand même une domination intellectuelle et médiatique de Lévi-Strauss absolument sans équivalent, prolongée par une exceptionnelle longévité. Dans l'article de 2000, l'article de l'homme, où il revient sur la question de parenté, il critique encore le fait que pour Granet, hommes et femmes puissent être permutés. Il dit non, non, ce sont les hommes qui échangent les femmes, pas l'inverse, alors que Granet accepte l'idée que les femmes puissent échanger les hommes. Parce que Granet est féministe. Et Lévi-Strauss y tient, et il a des formules du genre « Combien de fois devrais-je répéter que ?» Il a 93 ans, et il a encore des formules comme celle-là dans son dernier article sur la parenté, qui est par ailleurs un très bel article. Et puis, bon, je trouve que l'esprit critique n'est pas toujours aussi développé qu'on pourrait l'espérer. Il y avait beaucoup de critiques marxistes, mais qui étaient beaucoup trop idéologiques, parce que très vite, on s'est aperçu qu'il n'y avait aucune corrélation entre les structures de parenté ou les règles de parenté et les régimes, les systèmes de production, malgré toutes les tentatives qui ont été faites, notamment par le premier Godelier. La critique sartrienne, j'y consacre un chapitre, elle est assez futée. Sartre comprend que les faisceaux de parenté ont un contenu indéterminé et ont beaucoup plus de liberté. Lévi-Strauss consacre un cours entier à la critique de Sartre et il y a beaucoup d'incompréhension entre les deux hommes, mais je n'ai pas le temps d'en parler. Et puis, je trouve que la liberté critique de Louis Dumont, qu'il a manifestée dans son grand livre « Introduction à deux théories d'anthropologie sociale » où il expose le système de Lévi-Strauss, est restée finalement assez exceptionnelle. Merci pour votre attention. Merci.